Alors, comme ce premier colloque sur l'œuvre de Jean-Luc Lagarce devait lancer les recherches pour plusieurs années, selon les orientations qu'avait proposées le comité scientifique, donc qui réfléchit à ce projet depuis le départ, sa fonction consistait non seulement à présenter un temps fort sur nous, le héros, en raison d'une programmation donc au TNS, et en même temps ouvrir le questionnement sur le reste de l'œuvre, lancer des hypothèses que pourront par la suite approfondir, infirmer et confirmer les autres colloques. Alors, mon intervention, qui est un peu un exercice d'équilibriste, ne consiste pas tant à revenir sur les différentes communications ou tables rondes que, alors en essayant de souligner les grandes orientations choisies par les intervenants ou en faisant apparaître des liens, voire des divergences, que de proposer d'autres pistes que justement les prochains colloques se proposent d'explorer ou d'approfondir. Alors j'ai artificiellement séparé mon intervention en 5 points parce que c'était les 5 points qu'on avait retenus donc lors des premières réunions du comité scientifique donc chapeaute l'ensemble du projet sur l'année de Lagarce concernant les colloques. Donc le premier point concerne les mises en scène. Mise en scène et jeu, donc des textes de Jean-Luc Lagarce, et on a insisté justement sur le fait que Jean-Luc Lagarce a été d'une part un metteur en scène et d'une part un poète. Et cette insistance sur la mise en scène et le jeu est l'une des spécificités des colloques qu'organisent l'UMB et le TNS. Et dès le départ, et donc depuis 4 ans maintenant, on essaie d'associer de près les artistes de la scène et les universitaires, chose qui n'est pas forcément aisée du côté de l'université. Alors les questions du passage à la scène, les questions du dispositif scénique ou du jeu des comédiens ou comédiennes sont importantes compte tenu de la rareté des indications à la fois dans les didascalies et dans les répliques et de la fréquence notamment des récits. Sachant qu'il existe par ailleurs des notes de mise en scène de l'auteur, un journal, et qu'il y a peut-être à inventer, réinventer les textes de Jean-Luc Lagarce pour les amener à un présent nouveau et justement dépasser la notion de génération. Alors ce qui m'a beaucoup plu, c'est que j'ai trouvé que les tables rondes d'artistes étaient extrêmement intéressantes, très très stimulante intellectuellement et qu'on a fait affaire à des gens qui ont véritablement lu Lagarce de près et notamment qui ont tout de suite saisi l'importance dramaturgique et justement cette forme nouvelle qui essaie d'advenir au théâtre et qui ont insisté notamment sur donc cette réinvention d'un drame bourgeois qui implose de l'intérieur. Et puis qui ont essayé d'expliquer aussi, alors en revenant sur, mais je ne vais pas revenir là-dessus, donc sur les metteurs en scène 68 tard devenus des mandarins et qui n'ont pas monté Jean-Luc Lagarce ou qui n'ont pas en tout cas retrouvé ce qui était leurs inspirations d'époque et qui ont fait qu'il y a eu un rendez-vous raté avec une génération de metteurs en scène. Donc je ne reviens pas sur la question. Simplement, il y a l'idée aussi que cette réinvention passant par une forme a peut-être été mal prise dans le sens où effectivement on part de formes anciennes pour les faire exploser ou pour reproposer autre chose et que ça a peut-être été interprété comme du ringard ou bon en tout cas pas vu comme étant et si on reprend le parcours et l'enchaînement des pièces de Jean-Luc Lagarce, moi ce qui m'avait frappé, c'est que donc dans ce retour sur Beckett, Ionesco, Duras, mais on a la même chose chez Duras. Hein, les premières pièces de Duras, c'est du Ionesco, c'est du Beckett. Et on a l'idée, effectivement, qu'il y a des auteurs qui, à un moment donné, ont amené quelque chose qui a visiblement bouleversé, en tout cas, la façon de penser le théâtre. Donc Ionesco, Beckett, Adamov, qui ont marqué une époque et qui, ont une influence qui a perduré un certain temps. Alors après, peut-être que du côté de Jean-Luc Lagarce, si je reprends ce qui a pu être dit du côté des comédiens ou du côté des metteurs en scène, il y a cette notion d'écriture, il y a cette notion de poème, puisque donc c'est le poète trop tôt disparu dans Les illusions comiques d'Olivier Py, cette notion de poème et cette notion d'écriture mise en avant comme étant intrinsèquement liée à l'invention éventuelle d'une forme dramatique. Enfin, je veux dire que la notion de poète et d'écriture qui est adressée et qui fait quelque chose a été soulignée à plusieurs reprises. Pour en revenir à, puisque Marion Stoufflet est parmi nous, pour en revenir au choix qui a été fait de effectivement laisser de côté l'arrière-plan de la guerre, et puis peut-être de passer de la sphère publique de la guerre à une sphère privée d'une guerre au sein de la famille théâtrale, il me semble que ce qu'ils ont essayé de mettre en avant, et c'est ce qu'ils ont expliqué hier, c'est aussi de revenir sur la situation de l'acteur, et il me semble qu'il y a une actualité récente de la question de l'intermittence qui est importante, et qu'on a retrouvé évoqué dans les illusions comiques avec ces acteurs et leurs valises de carton, et il me semble que ça peut être un choix aussi de jeunes acteurs et d'un jeune metteur en scène d'aujourd'hui que de resituer justement cette situation d'intermittence et cette place de l'art actuellement. Pour la table ronde des comédiens, l'insistance était surtout sur la langue et cette difficulté qu'il y a à mémoriser et cette difficulté qu'il y a à entrer dans le texte de Lagarce et de finir par parler de Lagarce. Et ce qu'on l'extrait de répétition qu'on a vu avec Jean-Pierre Vincent était intéressant justement pour cette manière qu'il avait de les faire entrer, enfin de, avec cette jolie expression qui était que l'acteur devient écrivain puisqu'il s'approprie la langue en répétant, et la longueur nécessaire d'un travail à la table pour s'approprier cette langue. Alors, je passe à un second point pour ne pas faire trop long. Donc, du côté des universitaires, ce qui semble avoir majoritairement retenu l'attention concerne la prise en compte du matériau dramaturgique qu'élabore nous les héros ou l'ensemble de l'œuvre publiée, et indépendamment de mises en scène déjà existantes et qui peuvent s'envisager sous différents angles, si j'essaie de reprendre ce qui s'est dit. Donc visiblement, le théâtre de Jean-Luc Lagarce appelle une réflexion sur le répertoire et l'analyse des héritages ou des influences et les différentes formes de la réécriture dans les pièces. Alors soit à partir de textes existants, comme le journal de Kafka, comme il en a été question dans la communication de Patrick Leboeuf, soit à partir de la transformation de pièces pour une mise en scène, donc les deux versions de Nous les héros avec ou sans le père, ou encore ce qu'on appelle dans la critique savante l'intertextualité, donc qui se tisse à l'intérieur d'une pièce à l'autre, et méritant sans doute dans l'avenir une analyse d'état de pièces en quelque sorte intermédiaires. Je songe à Histoire d'amour, repérage et Histoire d'amour, dernier chapitre, ou encore Juste la fin du monde et Le pays lointain. Avec l'idée que, mais ça a déjà été dit plusieurs fois, hein, là encore, dans l'histoire du poète mort trop tôt, il y a aussi cette idée d'une réécriture et d'un mouvement vers une réécriture perpétuelle. Alors, beaucoup de communications se sont orientées sur l'invention d'une forme plus ou moins dramatique, mais travaillant dans le sens de la théâtralité contemporaine. Alors, la question de la temporalité a plusieurs fois été retenue. Alors, c'était le sens de l'intervention de Françoise Dubord, qui, donc, souffrant d'une sciatique, n'a pu venir au colloque de Strasbourg. Et elle prenait, enfin, son parti pris d'analyse de l'œuvre étant que la question de la mise en scène du temps était le principe premier de l'écriture des pièces de Jean-Luc Lagarce. Et on a eu, donc, dans l'intervention de Georgette Amiron, la proposition d'une dramaturgie de l'attente, qu'elle a comparée donc avec celle d'En attendant Godot de Beckett, alors que chez Marie-Isabelle Boulan-Mareuil, c'est davantage le retour sur le passé qui est mis en avant, et dans ce principe d'une remémoration de quelque chose qui a déjà eu lieu. Alors, je rappelle que dans une émission de Lucien Atoun, qui était une interview donc avec Jean-Luc Lagarce, donc en septembre 1995, Jean-Luc Lagarce le posait comme un principe, je le cite, « Je ne peux pas m'empêcher de considérer ce qui a lieu sur la scène comme ayant déjà eu lieu, comme étant répété, comme ayant déjà été entendu. » Et alors très souvent, effectivement, dans les pièces de Lagarce, la crise ou la catastrophe, pour emprunter un titre d'Hélène Kuntz, donc sur les dramaturgies de la catastrophe. Donc cette catastrophe, elle a déjà eu lieu, et il s'agit ou non de l'évoquer, ce qui fait précisément dans la temporalité une donnée insaisissable, non strictement localisable, et ou bien qui multiplie les différentes strates temporelles évoquées à l'intérieur de la pièce. Et il en a été question, donc le présent, le futur, voire le conditionnel. Et donc du coup, les personnages reviennent sur différentes époques. Les personnages reviennent sur différentes époques, ou bien ils multiplient les approches de l'événement, en les faisant par exemple prendre en charge par différents personnages. Et là je songe plus particulièrement à Vague souvenir de la peste ou les versions de Histoire d'amour. Avec Françoise Hollot au petit, il a été question de l'impossible reconnaissance de soi qui conduit à brouiller les frontières entre le dialogue et le monologue, notamment dans Le pays lointain. Et Julie Sermon, elle, a également insisté sur l'ambiguïté qui est celle du personnage, mais aussi de la fable, de la parole ou de la perception par le public. Car le théâtre de Lagarce frappe également par l'importance du non-dit, de la difficulté ou de la maladresse à dire, qui fait que l'on ne saisit pas immédiatement ce qui est en train de se dire, et les fins de pièce peuvent justement jouer sur l'ambiguïté, rester comme en suspens. On ne sait pas vraiment ce qui a eu lieu dans le passé, allusivement évoqué, par exemple dans la photographie. Alors se croisent encore des notions qui recoupent ce qui vient d'être mentionné. Donc d'abord ce que Michel Vinaver appelle la répétition-variation, donc le principe qui consiste à reprendre en modifiant légèrement un détail de ce qui est évoqué. Répétition-variation à l'intérieur de la même pièce, lorsque l'on recommence plusieurs fois le même récit. Là je songe au voyage de Madame Knipper vers la Prusse orientale et à Histoire d'amour. Mais encore dans l'entrelacement de plusieurs fils narratifs qui vont rester fragmentaires ou parcellaires, comme dans Hollywood, ce qui suppose du côté du spectateur tout un travail sur la mémoire et l'attention, et qui me semble, là aussi pour reprendre une notion qui a été fréquemment utilisée, qui est celle d'une adresse vers un public, hein, dans l'écriture de Jean-Luc Lagarce. Ou enfin, la question du point de vue qui est donné par la matière fictionnelle quand il y a pluralité et incertitude des points de vue. Je prends l'exemple de « J'étais dans ma maison et j'attendais que la pluie vienne » où la mère conteste le récit reconstituant les souvenirs de ses filles, lesquelles n'ont d'ailleurs pas les mêmes souvenirs, qu'il s'agisse de l'aînée, de la seconde ou de la plus jeune. Et cette pluralité des points de vue et cette ouverture qu'il y a dans le théâtre de Lagarce me semble justement être la possibilité justement d'aller au-delà de la notion de génération. Et la preuve, c'est que les jeunes gens qui sont ici s'intéressent au théâtre de Lagarce. Mon troisième point concerne donc ce fameux poème dont il est question dans le théâtre de Lagarce. Cette question du matériau textuel donc peut aussi se centrer sur le langage qu'élabore l'ensemble des pièces et qui pourrait s'envisager selon des approches plus poétiques ou linguistiques, et ce sera notamment l'objet du colloque de Besançon qui sera centré sur les problèmes que pose la traduction et donc le langage des textes de Lagarce en différentes langues. Car cette écriture, et cela a été remarqué à plusieurs reprises, hein, donc elle dit, elle hésite, elle revient en arrière, elle renchérit ou elle se dédie, et donc elle multiplie les postures énonciatives, elle met en mouvement la parole, et elle entretient une forme de jeu avec le spectateur qui finalement est suspendu à la parole du ou des personnages. Et je mettrais volontiers en relation ce principe de l'hésitation avec celui que mentionne le texte du luxe et de l'impuissance comme forme, je cite, de résistance au discours violent ou aimable des péremptoires professionnels des logiques économistes. Et cette hésitation, elle serait justement la façon de ne pas proposer un discours autoritaire. Cette hésitation, elle peut aussi être mise en relation avec les particularités langagières qui sont celles donc du théâtre de Jean-Luc Lagarce, et notamment un maniement subtil de la syntaxe et du lexique à l'œuvre donc dans les pièces. Et je renvoie à ce propos à un article de Didier Méreuse qui concernait la mise en scène de Jean-Pierre Vincent de Dernier remords avant l'oubli. Donc je le cite. dans un extraordinaire tricotage des répliques et des phrases qui se corrigent, se reprennent, se répètent, l'écriture de Jean-Luc Lagarce se révèle d'une virtuosité étourdissante. Elle est encore plus savante, usant de tous les registres du français, en maîtrisant toutes les règles pour mieux fouiller au plus profond de la confusion des sens et des mots. Et Bruno évoquait justement comme tentative qui serait celle de renouveler le théâtre, de redonner une valeur au langage et de faire réentendre le langage, et il y aurait peut-être de cela chez Lagarce. Donc ce tricotage des répliques et des phrases est précisément ce qui crée le mouvement ou le rythme de la parole, notamment, et moi j'ai été sensible à la mise en alinéa qui souvent isole des mots ou des portions d'énoncés, ou tout ce qui relève d'écho, alors écophonique ou écho de phrase, hein, qui reviennent à l'intérieur des pièces, et notamment un usage de la ponctuation qui me semble devrait pouvoir intéresser le domaine de la linguistique. Et ce travail se fait entendre lors du passage à la scène, et le spectateur en fait l'expérience, et c'est la raison pour laquelle d'ailleurs nous avons souhaité qu'il y ait des lectures des textes de Jean-Luc Lagarce, aussi bien pièce que le journal, justement pour faire entendre ce langage et cette manière particulière de le manier. Mon dernier point donc sera sur la portée de l'œuvre textuelle ou scénique. Alors Jean-Pierre Hahn nous a annoncé un rendez-vous raté, sans peut-être aller jusqu'au résultat de ou l'explication de ce rendez-vous raté, mais on a eu certaines explications avec Yannick Mancel. On en a eu avec les metteurs en scène, hein, qui se sont exprimés sur la question. Donc il y avait rendez-vous raté parce qu'une forme semblait vieillotte ou n'a pas été comprise, du moins à une époque donnée, parce que l'écriture a, mais comme celle d'Ingébili, hein, a désorienté et a surpris, peut-être autant d'ailleurs, je pense, les metteurs en scène que le public. Et puis, moi j'insisterai aussi quand même sur cette compagnie de la roulotte, quoi, qui était quand même une volonté d'être hors de l'institution et une volonté justement de ne pas être dans un secteur, on va dire, institutionnalisant ou mortifiant, même si, et après un passage raté à la Comédie-Française. La deuxième chose qui m'importe, c'est la question de l'actualité ou de l'intemporalité de l'œuvre, parce que justement, on y est revenu à plusieurs reprises. Il y a quand même un jeu entre une actualité et une intemporalité qui me semble se tisser dans l'œuvre. Et moi, j'ai été très sensible en voyant le journal vidéo de Jean-Luc Lagarce à justement cette attention extrême à l'actualité et la mention. Et le lien qui se produisait dans ces phrases qu'on voyait défiler sur les images entre une situation privée et personnelle qui est celle de la maladie et une attention et une sensibilité très forte à la souffrance des autres, à la souffrance du monde, à l'invasion du Koweït, enfin bon, à tout ce qui était en train de se produire autour de lui. Et il me semble que cette question de l'actualité, de l'intemporalité de l'œuvre, elle peut aussi bien concerner les textes, et autant les pièces que les essais, que les mises en scène. Autrement dit, ce qu'il dirait explicitement ou implicitement du monde, mais parce qu'une œuvre est toujours à ramener à un présent nouveau, enfin elle est issue d'un présent, mais elle est aussi à ramener à un présent nouveau pour le lecteur ou pour le spectateur. Et donc ce qu'il dirait, ces textes explicitement ou implicitement du monde, et ce que l'on pourrait encore leur faire dire ou signifier scéniquement dans une salle de théâtre, et cette fois en faisant donc des choix de mise en scène, mais là je renvoie encore une fois aux tables rondes. Il n'y a pas eu d'intervention délibérément orientée sur le rapport à l'autobiographie ou au témoignage, même si, comme le dit Lagarce lui-même, toujours dans l'entretien donc, avec Atoun de 95, je le cite, « L'autre pente, où je pars de 3 petits points, moi 3 petits points, ou de ce que j'observe 3 petits points, ou donc je laisse parler des choses plus personnelles, 3 petits points, enfin jusqu'à un certain point. » Et donc ce qui est intéressant, c'est que, et François Béreur le rappelait tout à l'heure, c'est que justement dans le travail de Lagarce, dans son écriture, il y a eu la volonté d'un gommage et d'une mise en retrait de choses trop personnelles ou d'une mise en retrait d'une actualité trop immédiate. Et donc c'est jusqu'à un certain point. Voilà. Et je pense du reste que il n'est peut-être pas. Enfin, me semble qu'il y a un écueil aussi à calquer la biographie de Lagarce et son œuvre. Un artiste est un artiste et cela va au-delà de ce qu'il a pu être comme individu. Les communications sur une approche philosophique ou plus sociologique des textes ou des mises en scène. Donc, ont été présentés donc, ce matin, donc je ne vais pas y revenir, donc Yannick Mancel et Bruno Takels. J'ajouterai ce qui m'a moi beaucoup frappé, c'est la difficulté à se comprendre. Et donc, qui va revenir sur ces histoires de génération, mais qui sont temporelles. Enfin, je veux dire, les enfants sont toujours en guerre contre les parents et les parents contre les grands-parents. Enfin, je veux dire qu'on retrouve ces problématiques-là. Il me semble que ça va au-delà aussi. Et peut-être que là, on rejoint avec ce qu'ont apporté Ionesco et Beckett, ce qui était cette méfiance énorme vis-à-vis du langage. Et vis-à-vis de ce qu'on peut faire dire au langage, qui passe, me semble-t-il, chez Lagarce, par cette mise à plat de la difficulté à se comprendre, de la difficulté à dire, de la difficulté à aller chercher l'autre, malgré un souhait d'aller chercher l'autre. Et puis, une deuxième chose, moi, qui m'avait frappée, c'était cette notion d'arrangement, qui revient très fréquemment dans les pièces. Comme s'il y avait avec une connotation soit péjorative soit au contraire positive de la chose, hein, l'arrangement avec la réalité, et qui est soit pris par les uns comme une faute, une culpabilité, on s'est arrangé, on est devenu d'anciens maoïstes mandarins par exemple, ou bien on s'arrange avec la réalité parce que c'est la seule solution et qu'il faut bien avancer et continuer à avancer. Voilà. Et alors pour ce qui concerne les communications proposant des lectures plus politiques de textes ou de mise en scène, qui n'ont peut-être pas été sur le devant de ce colloque, mais qui le seront peut-être développés plus tard, et Bruno Takels a essayé de proposer des pistes. Il y a ce qui me semble assez troublant et qui est peut-être à creuser sur ce gommage des frontières entre les relations privées et les relations sociales conflictuelles, donc la guerre dans nos héros et une guerre au sein d'une famille théâtrale. Et moi, ce qui m'avait surtout frappé, c'était cette réflexion sur le poids du pouvoir. Enfin, je pense aux prétendants ou à d'autres pièces où Marie-Isabelle Boulan-Mareuil a aussi bâti son intervention en ce sens. Hein, les serviteurs sont des serviteurs avec ce poids sur le dos. Le poids du pouvoir, le poids d'une aliénation qui oppresse. Et dont il est difficile de sortir et dans lesquels effectivement les jeunes gens, les personnages de jeunes gens essaient de sortir. Et puis quand même, même si le sida n'est pas nommé, quand même la mise sur le devant du fait de mourir jeune et d'une maladie qui n'est pas n'importe quelle maladie, et qui amène aussi à revenir sur quelque chose qui avait été et qui ne l'a plus été, donc un des moteurs, enfin le moteur de 68, c'est pas moteur, ce n'est pas le mot juste, mais en tout cas la fameuse libération sexuelle qui s'est trouvée muselée justement par l'apparition d'une maladie qui ne rend plus libre sexuellement. Et puis, dernière chose, et je m'arrête là, ce sont la présence, alors pas omniprésente, mais la présence extrêmement pesante de la guerre que je trouve, moi, alors en filigrane ou mentionnée, et quelles que soient d'ailleurs les guerres dont il soit question, hein, mais la présence de la guerre, la présence d'une société qui n'est pas dans la paix et qui ne connaît pas la paix et qui... et qui doit vivre aussi avec cette réalité. Voilà. Enfin, en tout cas, je remercie tous les participants de ce colloque que j'ai trouvé très enrichissant et plein d'échos, construisant, et ce qui était bien, je trouve, pour un démarrage, hein, donc pour une avancée dans un projet en cours. Voilà. Je vous remercie.